Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Premier pas d'une avocate, le podcast dans lequel je vous partage mes débuts dans la profession d'avocat. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série sur mon podcast intitulé CRFPA mode d'emploi. Cette série, comme son nom l'indique, sera consacrée à l'examen du CRFPA. Le CRFPA est un passage obligé mais qui est souvent redouté des étudiants qui souhaitent devenir avocat. J'ai donc souhaité créer cette série d'épisodes pour vous partager mes conseils et mon expérience sur le CRFPA, dans le but de vous aider à le préparer au mieux et donc à le réussir. Dans ce premier épisode un petit peu plus introductif, je vais dans un premier temps vous présenter de manière générale l'examen du CRFPA, et ensuite je vous présenterai quelles sont les conditions pour pouvoir vous inscrire à cet examen. J'espère sincèrement que cet épisode et cette série CRFPA mode d'emploi vous plaira, et je vous laisse tout de suite avec la suite. Je vais donc commencer par une présentation générale du CRFPA. Avant toute chose, que signifie ce terme de CRFPA ? Il s'agit de l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, dont l'acronyme est donc CRFPA, que l'on appelle plus communément le barreau. La réussite à cet examen est donc indispensable pour devenir avocat, puisqu'il va nous permettre d'intégrer l'école des avocats. Cet examen est souvent une étape redoutée des étudiants, et elle l'était aussi pour moi, puisqu'il s'agit clairement de l'étape la plus difficile pour pouvoir devenir avocat. En effet, une fois que l'on a réussi cet examen, il ne nous reste plus qu'à suivre la formation dispensée par l'école des avocats pendant un an et demi, puis à la fin de l'école, de passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, que l'on appelle le CAPA. Donc on doit encore passer un autre examen à la fin de l'école, mais clairement cet examen n'est pas réellement sélectif, ou en tout cas est beaucoup moins sélectif que le CRFPA, puisqu'il y a à peu près 98% de réussite à cet examen. Au contraire, l'examen du CRFPA est sélectif, avec des taux de réussite variant de 15 à 45% de réussite selon les facultés. Il s'agit donc d'un examen sélectif et qui est quand même assez éprouvant à préparer puisque les premières épreuves commencent début septembre et que les résultats finaux ne sont connus que début décembre. Mais je vous rassure, réussir le CRFPA est tout à fait possible et est à la portée de tous avec une bonne préparation et de la motivation. Donc voilà pour une présentation générale de l'examen du CRFPA. Et maintenant je vais vous expliquer quelles sont les conditions pour vous inscrire à cet examen. Il y a trois conditions à remplir pour pouvoir vous inscrire et passer l'examen. La première condition est d'être inscrit dans un institut d'études judiciaires, c'est-à-dire un IEJ. La deuxième condition est d'être titulaire au minimum d'un Master 1 en droit. Et la troisième et dernière condition est de ne pas avoir déjà passé l'examen plus de trois fois. Cela signifie donc que vous avez trois tentatives pour pouvoir réussir le CRFPA. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur la première condition, qui est celle de l'inscription dans un IEJ. En effet, il faut s'inscrire dans un institut d'études judiciaires, qui est donc un IEJ, pour pouvoir passer le CRFPA. Mais qu'est-ce que c'est qu'un IEJ ? Alors, un IEJ est présent dans chaque faculté de droit de France, et permet notamment de préparer les étudiants aux épreuves de l'examen d'entrée au CRFPA. Mais les IEJ préparent aussi parfois à l'ENM, qui est le concours pour devenir magistrat, ou à d'autres concours. Votre inscription à l'IEJ vous permettra uniquement de vous inscrire au CRFPA et de vous préparer à cet examen. En effet, l'année que vous allez effectuer à l'IEJ ne comptera pas dans votre parcours universitaire et ne vous permettra pas de valider une année comme les années de licence ou de master. Elle ne permet pas non plus de valider de diplômes en plus, comme par exemple les diplômes universitaires spécifiques. Donc vraiment, votre inscription à l'IEJ vous permettra uniquement de vous inscrire au CRFPA. Je vous conseille vivement aussi de bien vous renseigner sur les dates d'inscription pour ne pas rater les dates de clôture et devoir attendre la session de l'année suivante, ça serait vraiment dommage. Les inscriptions se font généralement d'octobre à fin décembre de l'année précédant celle dans laquelle vous allez justement passer le CRFPA. Donc pour prendre un exemple, ce sera plus simple. Pour la session 2021, vous pouvez vous inscrire d'octobre à décembre 2020. S'agissant du choix de votre IEJ, vous pouvez décider de vous inscrire dans l'IEJ de votre choix. Cela signifie que vous pouvez vous inscrire dans l'IEJ de la faculté dans laquelle vous effectuez déjà vos études, ou au contraire dans l'IEJ d'une faculté dans laquelle vous n'avez encore jamais étudié. Pour ma part, j'ai choisi de passer le CRFPA dans la faculté dans laquelle j'avais fait mon Master 2, à savoir Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je précise également que l'IEJ dans laquelle vous vous inscrirez ne conditionne pas l'école des avocats dans laquelle vous pourrez vous inscrire, ni le barreau dans lequel vous exercerez la profession d'avocat. Par contre, si vous décidez d'aller dans une autre école que celle dont dépend normalement votre IEJ, il faudra que vous fassiez une demande dérogatoire pour certaines écoles, et je crois que c'est le cas de l'EFB, qui est donc l'école des avocats du barreau de Paris. Les IEJ proposent généralement aux étudiants, à partir de janvier, une préparation au CRFPA qui va être différente selon les IEJ. Certains dispensent de vrais cours, alors que d'autres font seulement des cours d'actualisation et de méthodologie. Normalement, les IEJ organisent également des entraînements durant l'année, dont le nombre est différent selon les IEJ. Normalement, vous n'êtes pas obligé d'aller en cours ni de réaliser les différents entraînements proposés, mais vraiment, je vous encourage à les faire pendant l'année, même si vous n'avez pas encore du tout commencé à travailler vos cours, parce que ces entraînements vous permettront de retenir déjà votre cours, d'identifier ce que vous connaissez déjà et au contraire ce que vous n'avez jamais vu, et surtout de connaître les exigences et les attentes de vos correcteurs. Puisque ce sont avant tout les IEJ qui créent les grilles de correction pour les épreuves nationales du CRFPA, donc ils auront globalement les mêmes exigences que pendant vos entraînements à l'IEJ. J'en ai fini avec la première condition qui était donc l'inscription à un IEJ, et maintenant je vais passer à la deuxième condition, qui est d'avoir obtenu au minimum un Master 1. Je précise ici que la condition d'avoir au minimum un Master 1 pour s'inscrire au CRFPA pourrait changer, puisque en 2018, le Conseil National des Barreaux, qui est l'instance représentative des avocats, a voté une résolution restreignant l'inscription au CRFPA uniquement aux titulaires d'un Master 2. Il ne serait donc possible de s'inscrire au CRFPA uniquement après avoir obtenu un Master 2. Mais je vous rassure, à l'heure actuelle, cette décision n'a pas encore été prise par la chancellerie, et donc, pour l'instant, vous pouvez toujours vous inscrire au CRFPA après avoir uniquement obtenu un Master 1. Du coup, se pose ici une question importante qui est celle du moment pour passer le CRFPA. Vous avez ici trois possibilités. Vous pouvez décider de le passer directement après votre Master 1, de le passer après un Master 2, ou encore de le passer après une année de césure. Il n'y a pas vraiment de réponse type à cette question car cela dépend totalement de votre profil universitaire et surtout de votre mental. Mais je vais quand même ici vous présenter les avantages et inconvénients de chacune de ces possibilités. Tout d'abord, si vous choisissez de passer le CRFPA juste après le Master 1. Vous êtes donc dans la situation dans laquelle vous êtes un étudiant inscrit en Master 1 et vous vous inscrivez en même temps à l'IEJ. Le plus grand avantage à passer directement votre CRFPA après le Master 1, c'est justement que les matières de votre Master 1 correspondent souvent plus aux épreuves de l'examen que celles que vous pouvez étudier en Master 2, puisqu'elles sont souvent plus spécialisées. Mais surtout, les matières du CRFPA correspondent le plus souvent à des matières vues en licence. Du coup, le fait de passer le CRFPA directement après le Master 1 permet justement d'avoir encore en tête les principales notions de ces matières et donc de gagner du temps lors des révisions, comparé à un étudiant qui sort de Master 2 où là, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il n'a pas revu ces matières et donc il va peut-être devoir les redécouvrir. Donc, c'est vraiment du temps de gagner lors des révisions pour le CRFPA. Un autre avantage à passer votre CRFPA directement après votre Master 1, c'est que si vous souhaitez quand même faire un Master 2, il est possible de réaliser votre Master 2 soit dans le cadre du PPI à l'école des avocats, soit en repoussant l'entrée à l'école d'un an. Donc vraiment, si vous réussissez le CRFPA et que vous souhaitez faire un Master 2 après, c'est tout à fait possible, vous pouvez aménager tout ça comme vous le souhaitez. Après, le plus gros inconvénient de ce choix, c'est le fait que souvent l'année de Master 1 est quand même une année assez éprouvante dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Et donc le fait d'enchaîner directement avec les révisions du CRFPA peut être assez compliqué si vous êtes fatigué. Donc là, il faut clairement que vous vous posiez la question de savoir si après justement votre Master 1, vous êtes prêt à enchaîner directement sur les révisions du CRFPA, parce que ça va quand même être des révisions assez intensives. Donc il faudra vraiment que vous soyez motivé et en forme. Après, souvent, les Master 1 se finissent vers avril-mai, voire juin pour certains. Donc je vous conseille de vous reposer directement après. Vraiment, 2-3 semaines où vous faites rien, en fonction de la date à laquelle vous finissez votre Master 1, avant de commencer votre préparation du CRFPA. Après, un autre inconvénient, c'est que du coup, si vous voulez intégrer un Master 2 à la rentrée, déjà vous serez quand même très fatigué parce que donc vous avez passé votre été à préparer le CRFPA et à passer les écrits la première semaine de septembre. Et surtout, si vous êtes admissible, vous devez alors vous préparer pour le grand oral. Vous devez donc, dans ces cas-là, cumuler votre travail pour le Master 2 et vos révisions du grand O, ce qui, en soi, est faisable dans la plupart des Master 2 parce que le début de l'année est souvent plus tranquille et que les Master 2 demandent souvent moins de travail personnel. Mais voilà, c'est une question aussi à vous poser. Est-ce que vous êtes capable donc d'enchaîner votre Master 1 puis votre préparation au CRFPA pour enchaîner après, si vous le souhaitez, par un Master 2 tout en continuant à préparer votre grand O. Voilà pour les avantages et inconvénients du passage après le Master 1. Maintenant, pour le passage après le Master 2, l'un des avantages de passer le CRFPA directement après votre Master 2, c'est que souvent, les Master 2 demandent moins de travail personnel que les Master 1. Après, tout dépend bien sûr des différents Master 2, mais généralement, vous avez quand même un petit peu plus de temps pour commencer à travailler le CRFPA avant les 2 mois de préparation normalement d'été. Donc, ça veut dire que vous pourrez peut-être commencer à un petit peu regarder les cours ou à commencer à faire les entraînements de vos IEJ. Un autre avantage de passer le CRFPA après le Master 2, c'est que vous aurez donc peut-être plus approfondi certaines matières, et notamment votre matière de spécialité, où là, souvent, vous pouvez avoir peut-être une meilleure note qu'en le passant après votre Master 1. Mais après, tout dépend des sujets. Un des principaux inconvénients de passer le CRFPA après votre Master 2, c'est que généralement, vous aurez moins de temps pour préparer le CRFPA pendant l'été. Généralement, à la fin de votre Master 2, vous aurez soit un mémoire à rendre, soit un stage à effectuer. Et souvent, les stages peuvent aller jusqu'à fin juin, voire des fois au-delà. Donc là, ça va être difficile de gérer la préparation du CRFPA après avoir enchaîné directement votre stage, ou des fois accumuler les deux. Et parfois aussi, les soutenances des mémoires de Master 2 se déroulent en septembre. Et donc, dans ces cas-là, il faudra préparer le CRFPA tout en écrivant votre mémoire et préparer votre soutenance. Donc là aussi, c'est un point à vérifier et être sûr que vous pouvez cumuler votre préparation avec votre Master 2. Sinon, la dernière possibilité est de consacrer un an entier ou parfois un semestre à la préparation du CRFPA. Là, vous décidez de prendre une année de césure entière ou un semestre entier pour préparer votre CRFPA. Le principal avantage à ce choix, c'est que justement, vous avez plus de temps pour approfondir et pour maîtriser les épreuves du CRFPA, notamment les épreuves écrites. Mais le principal inconvénient, c'est que préparer le CRFPA aussi longtemps en avance peut avoir un effet inverse. Puisque si vous ne faites que réviser le CRFPA pendant un an, au bout d'un moment, vous n'en pourrez plus de travailler tout le temps les mêmes matières, et donc dans ces cas-là, vous pourrez perdre votre motivation. Pour éviter ça, vous avez alors la possibilité d'effectuer un stage, que ce soit en cabinet d'avocat ou par exemple en juridiction, et donc vous pouvez faire un stage de 3 à 6 mois, tout en continuant par exemple à réviser tranquillement vos matières, et après, à partir de mai ou de juin, comme vous le souhaitez, là, de vous donner à fond pendant tout l'été, jusqu'à septembre. Donc voilà un petit peu pour les avantages et inconvénients de chacune des possibilités. Pour ma part, j'aurais vraiment souhaité passer le CRFPA avant de rentrer en Master 2, et donc à la fin de ma 4e année de droit, mais cela n'était pas possible. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode sur mon parcours universitaire, j'ai intégré un magistère en 3e année, qui m'a permis d'effectuer un LLM pendant ma 4e année à l'université d'Exeter en Angleterre. Le problème, c'est que dans le cadre de mon magistère, donc après avoir effectué mon année de LLM, je devais réaliser un stage de 3 mois, que j'ai donc effectué de juin à août. Et en plus, dans le cadre de mon LLM, j'avais une dissertation, donc c'est une sorte de mémoire en anglais, que je devais rendre fin août. Donc c'était vraiment impossible pour moi d'effectuer mon stage tout en écrivant mon mémoire et en plus à me préparer pour le CRFPA. C'est pourquoi j'ai choisi de passer une première fois le CRFPA à la fin de mon Master 2, mais malheureusement je n'ai pas réussi cette première tentative, donc je l'ai repassé l'année suivante après m'être préparé tranquillement pendant un semestre. Mais je vous reparlerai de tout ça plus en détail dans un épisode consacré à mon expérience avec le CRFPA. En tout cas, Personnellement, moi je vous conseille quand même d'essayer de le passer à la fin de votre Master 1, puisque vous avez normalement acquis toutes les connaissances pour pouvoir réussir votre CRFPA, que vous avez révisé ces matières il y a moins longtemps que par rapport à un étudiant qui sort de Master 2, et donc je pense que c'est un gain de temps lors de vos révisions du CRFPA. Surtout, je pense que c'est une bonne chose de le passer après votre Master 1, puisque comme il est possible de passer l'examen 3 fois, vous pouvez donc passer l'examen après votre Master 1 un petit peu comme un premier test. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, même si vous avez un petit peu peur. Vous avez 3 chances, donc autant tester. Ça se trouve, vous allez le réussir du premier coup. Donc dans ce cas-là, c'est génial parce que vous allez pouvoir directement intégrer soit l'école, soit un Master 2, tout en sachant que vous avez déjà passé le CRFPA. Donc c'est un gros cap de passer et donc du stress en moins. Après, si vous le réussissez pas, c'est pas grave, ou vous le repassez à l'issue du Master 2, et si vous le ratez encore, vous aurez un dernier recours de prendre là un an pour le préparer. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit concernant les conditions pour vous inscrire au CRFPA. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et a permis de répondre à certaines de vos questions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager sur Instagram et à le noter sur iTunes ou sur une autre plateforme. Et si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram. Cela me soutiendra beaucoup et vous permettra de ne rater aucun épisode. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un tout nouvel épisode du podcast Premier pas d'une avocate.